Bon bah, après Madrid, encore un tournoi avec énormément de surprises à Rome, ça promet. On espère peut-être un Tsitsipas Zverev pour sauver la finale, mais on peut avoir des surprises avec Fritz Stabilo qui fait un parcours de folie. On va débriefer un petit peu de ce début de tournoi à Rome, même si on approche de la fin. Ce soir, je suis en compagnie de Rob. Salut Rob, comment ça va?
Bah très bien, encore un tournoi qui nous surprend. On était tous partis sur Djokovic en mode il va se relancer et finalement surprise et bah Tabio qui en plus confirme et même globalement on a pas mal de surprises. Il reste que Zverev et Tsitsipas comme joueurs qu'on attendait vraiment dans ce tournoi, donc très intéressant encore en tout cas.
Salut à tous ceux qui nous rejoignent et on se retrouve
Salut,
juste
ouais.
après le jingle pour parler de Rome. On attaque tout de suite, donc Rome en route pour les quarts de finale, même si quelques affiches ont déjà été jouées, notamment la majorité chez les dames. On va commencer par un petit peu ce qui s'est passé en résumé. Qu'est-ce que tu retiens, toi, Rome, de ce début de tournoi à Rome, avec notamment, bah, j'ai une plein de faits de jeu, les éliminations de Nadal, Djokovic, Ruud, Rublev, Medvedev et Rune. La première question, c'est doit-on s'inquiéter un peu plus d'une semaine avant Roland-Garros? Et WTA, bon, on a des favoris ultra solides, Collins, Sabalenka, Świątek et la renaissance de Gauff parce qu'elle a eu une période un petit peu de moins bien et le forfait de Rybakina. Si tu dois résumer un petit peu tout ça, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu es déçu de ce début de tournoi? Est-ce qu'au contraire, ces surprises te font plaisir? Est-ce que c'est mieux que Madrid? Dis-nous tout.
Bah, j'ai un sentiment un peu mitigé sur ce tournoi. Je trouve quand même que c'est mieux que Madrid parce qu'on n'a pas les forfaits et je trouve quand même que globalement c'est mieux. Il y a quand même des joueurs intéressants à suivre comme Tabilo, Urcage, des joueurs qui ont fait des upsets puis qui confirment ensuite. Maintenant, je sais pas trop. Ouais, c'est vrai que les affiches font pas hyper rêver. C'est intéressant aussi, mais ça ne donne pas beaucoup d'indications pour Roland, j'ai envie de dire. Après, je pense qu'il faut vraiment faire du cas par cas par rapport aux éliminations. Bon, Nadal, c'est sûr que c'est inquiétant. Djokovic, c'est inquiétant, bien sûr. Moi, Ruud, je pense pas que c'est inquiétant. Alors, il était un peu touché au dos, mais il a quand même montré à Barcelone et à Monte-Carlo qu'il était solide. Donc, je peux pas l'enlever quand même des prétendants à Roland. Rublev, pareil, il a fait une semaine de fou à Madrid. Pour moi, c'est juste de la fatigue. Donc, je pense qu'on peut vraiment enlever Ruud et Rublev de la liste des joueurs inquiétants. Après, Medvedev et Rune sont également un peu sur le radar parce que ouais c'était pas des bonnes prestations. Medvedev hier contre Paul pas du tout dans le combat, qui a lâché le match, ça a duré je crois 1 heure, à peine plus d'une heure. C'était vraiment pas du bon Medvedev, étonnant quand on sait qu'il a quand même une finale à défendre. Il a quand même 1000 points à défendre et bah même contre Medvedev déjà c'était limite et là on sent qu'il voulait pas se
Jouer
battre.
3 heures la veille, jouer 3 heures la veille quand même, ça va être compliqué
Ouais, c'est sûr.
d'enchaîner.
Après, le problème c'est qu'il se complique aussi parce que contre Medvedev il a fait que défendre, alors c'est son style de jeu, mais quand tu fais vraiment que défendre, il faisait vraiment que ça contre Miljkovic. J'ai regardé tout le match, il faisait quasiment que ça. Donc bah forcément après t'as révisé. Et Rune, j'ai pas de mots en fait. C'est un peu, il est capable de tout quoi. Il y a un jour, il va tout rentrer dedans, il peut battre n'importe qui. Et le jour d'après, il perd contre n'importe qui. Bon Baez, c'est quand même un joueur solide, mais il doit jamais perdre ce match contre Baez. Il est bien dans le match, il commence à faire n'importe quoi au début du deuxième set. Donc ouais, pas mal de joueurs qui sont incertains. On peut rajouter Sinner qui risque d'abandonner, Alcaraz qui a repris l'entraînement, mais on ne sait pas où il en est. Au final, ouais, il n'y a que Tsitsipas et Zverev qui peuvent vraiment. Tsitsipas s'est déjà relancé et Zverev a une belle occasion aussi. Donc c'est les deux joueurs qui peuvent se démarquer dans ce tournoi, en tout cas, ouais, côté homme.
Salut Stanislas, on va très bien, on parle tennis. Voilà une petite soirée, une petite heure ensemble pour débriefer tout ça avant de se projeter ben, sur le Fritz Zverev qui va enchaîner après le match de Collins. Nadal, en effet, annoncé qu'il devrait jouer Roland-Garros.
De vrai,
Donc
on
là,
n'a
il va s'entraîner.
pas.
C'est ça. Il s'entraîne cette semaine dans son académie, notamment avec Grigspor, qui va le rejoindre pour quelques jours pour taper la balle avec le légendaire Grigspor sur terre battue, menace redoutable, pour ensuite aller après se rendre à Roland. Et voir un petit peu ce que ça va donner. Donc, on va attendre jusqu'au bout. Si je jouera ou pas, ça va être le feuilleton un petit peu de la semaine prochaine avec les qualifs en plus. Et notamment, bah, toutes les polémiques qu'ont fait jaser les wildcards et de ne pas en attribuer à Tim. D'ailleurs, Rob a fait un short à ce sujet.
Fameuse.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a souvent critiqué la WTA. C'est moins régulier, c'est moins constant. On s'ennuie et pourtant, on a vraiment des patronnes qui tiennent le coup. Je parle de Świątek et Sabalenka. Et Collins, qui se fait une seconde jeunesse, on va voir si elle gagne contre Azarenka. Gauff, voilà, qui était un petit peu dans le creux de la vague et qui remonte sur ce tournoi. Donc c'est vachement plaisant. Et on peut avoir de très belles affiches. Je pense à Sabalenka Collins. On se rappelle il y a quelques jours ce que ça avait donné, et surtout la finale Swiatek Sabalenka, où là encore ça promet. Certes, ça peut faire pchit dans des conditions un petit peu plus lentes, même si Swiatek a eu certains moments où ça a été un peu plus compliqué dans certains matchs. Mais bon, à chaque fois, ça passe facilement. Mais ça peut être assez intéressant pour la suite. Et Titi passe aussi chez les messieurs. On va se projeter sur tout ça. Donc, on va commencer par les hommes. Et il y a une affiche qui a déjà eu lieu, qui était peut-être la moins sexy des quatre. Tabilo contre Cheng, où le Chilien s'impose 6-3, 6-4. Donc ça, c'est vraiment la belle surprise. Titré au Challenger d'Aix-en-Provence il y a quelques jours. Il s'est imposé en finale contre Mounard. Il a sorti Djokovic à Rome. Il a su enchaîner contre Khachanov. Pas un match facile avec des tie-breaks piégeux. Et contre Cheng, voilà, forcément, les deux avaient une occasion d'or de jouer une première demi en Masters 1000. Donc voilà, c'est Tabilo qui a pris le meilleur. Ça fait plaisir. On aime les belles histoires, d'autant plus que Tabilo, enfin, c'est un joueur qui a tout pour briller sur terre battue, un bon service, un bon coup droit, et il a eu des périodes un petit peu compliquées. On pourra en parler plus tard, un peu comme un Baez qui a traversé un bon début d'année avec son titre assez rapidement. Après, il y a eu quelques matchs par-ci par-là. Après, il est reparti un peu dans le creux de la vague dans la saison européenne, et là, il revient fort. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de Tabilo? Coup de chance, véritable confirmation, il va perdre au premier tour à Roland-Garros. Comment est-ce que tu vois les choses par rapport au Chilien?
Non, moi je pense pas que c'est un coup de chance. C'est un joueur quand même qui est très à l'aise sur terre battue, chilien. Il a déjà fait quelques jolis coups de mémoire sur des tournois en Amérique du Sud. Donc non, c'est un joueur solide. Bah, rien que cette année, à San Diego, il va très loin. Donc non, c'est un joueur qui est vraiment solide, je trouve, qui mérite sa place ici. Il a fait vraiment un très bon match contre Djokovic. Alors bien entendu, c'était pas du bon Djokovic. On ne sait pas ce que ça pourrait donner en grand chelem contre un top joueur. Mais c'est très fort ensuite de confirmer, parce que tu as quand même les projecteurs qui sont sur toi ensuite. Et tu confirmes contre Khachanov en gagnant deux tie-break tendus contre un joueur quand même qui est régulier et qui fait partie du top 20 depuis de nombreuses années. Donc c'est quand même vraiment à souligner. Là, il tient son rang contre un Zeng qui avait fait un bon parcours aussi, mais pour moi, il était légèrement favori et il a fait respecter son statut. Donc c'est très, très costaud, franchement. Après, de là à dire qu'il peut aller très loin à Roland, peut-être pas. Mais franchement, moi, je vois bien tenir son rang au moins à Roland, au moins aller au troisième tour. Et je pense que pour celui qui va le jouer, alors en plus, il va être classé parmi les dernières têtes de série. Il faut voir jusqu'où il va. Là, il est monté 25e mondial. S'il gagne le prochain match, il pourrait être encore mieux classé. Mais s'il reste 25e mondial, bon, il y a des forfaits peut-être, donc ça peut jouer. Mais il pourrait prendre normalement, du coup, avec les forfaits, ça va être entre 9 et 16, les têtes de série.
Ouais, c'est ça, au troisième tour.
C'est ça. Mais ouais, franchement, ça va pas être un cadeau, honnêtement, pour n'importe quel joueur. Prendre Tabilo au troisième tour, ça sera pas un cadeau. Et ouais, il peut peut-être faire un coup, ça sera les joueurs en tout cas à surveiller, l'un des joueurs à surveiller à Roland. Et si on va plus loin dans ce tournoi, je pense que peu importe qui gagne, ce soit entre Zverev et Fritz, je pense que ça sera pas une partie de plaisir, et qu'il peut vraiment accrocher l'un des deux joueurs, et pourquoi pas même aller créer encore une plus grosse sensation dans l'en finale. Donc je le découvre pas, je le connaissais un peu, mais c'est vrai que c'est un peu l'explosion. C'est sa première demi en Masters 1000, et franchement, chapeau. Ouais.
Bah, c'était un joueur qui avait l'habitude de perfer, surtout sur des terres battues en altitude. Enfin voilà, des conditions un petit peu plus rapides par rapport à son style de jeu. Là, sur une terre plus sèche, il arrive à performer. Franchement, il a pas perdu le moindre set. Il joue en fin au premier tour, qui est jamais facile. Joueur plutôt barré centré côté revers, donc en plus, t'as bloqué gaucher. Voilà, qui pouvait vraiment lui donner le change. Il passe tranquillement contre Djokovic, même si c'était que l'ombre de Djokovic. Il passe, il tremble pas du tout, il se fait pas briquer une seule fois. Contre Khachanov, c'est là où ça a été le match le plus compliqué. Beaucoup de tension des deux côtés. Chacun des deux joueurs a eu sa
2h30.
Chance. Contre Cheng. Et contre Cheng, voilà, 2-7 et 2h30. Et contre Cheng, bon, ça passe tranquillou. Après, il avait perdu un set contre Gaston et un set contre Vachereau il y a quelques jours au Challenger Dex. Donc là, forcément, la confiance commence à faire son petit effet. 8 victoires, ouais, c'est ça, 8 victoires de suite, même s'il a l'abandon contre Magnus.
4-4.
Très, 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 très solide. Alors qu'on rappelle, à Madrid, il avait perdu contre Koboli, contre Fuxovic à Bucarest, contre Ruud à Monte Carlo. Et il a quand même pris un set, il avait fait un gros match d'ailleurs à Miami contre Dimitrov, qui avait une bulgare dans le bain. Donc vraiment très positif. Voilà, on ne sait pas dans le chat ce que vous en pensez, et c'est ce que tu dis, ouais, en vrai, c'est clairement le monde à l'envers. Et Stanislas, on peut rejoindre, je pense. On a pas mal critiqué le format sur 12 jours.
Moi, ce qui me dérange, ouais, c'est qu'on a tout en fait entre le vendredi et le mardi. En fait, le premier tour n'est pas très intéressant le mercredi et le jeudi. Après, il y a plein de matchs. Ils mettent les huitièmes de finale femmes sur une journée, les huitièmes de finale hommes sur une journée. Donc, limite, on a une orgie de tennis, on a trop de matchs, on ne peut pas tout suivre. Et après, bah, on a quatre pauvres matchs le mercredi, quatre pauvres matchs le jeudi, deux matchs le vendredi. Enfin, c'est un peu, ouais, à rien y comprendre et c'est un peu dommage. Je trouve ça long pour rien, en fait. Le début n'est pas intéressant, la fin n'est pas intéressante. Et au final, ouais, on a 5 jours au milieu qui sont sympas et c'est tout, quoi. Donc, à
Très
part si
mal
tu as
géré en fait.
vraiment. Ouais.
Rendez-vous compte, pour nous spectateurs, c'est long de se dire voilà, on est en attente parce que des fois on n'a que deux matchs dans la journée, trois matchs. Mais qu'est-ce que ça doit être pour les joueurs? Parce que certes, il y a on va dire, ce qu'on voit de l'iceberg et se dire juste la réflexion primaire, c'est ça leur fait plus de temps de récupération pour un format de 7 gagnants, mais ça leur fait aussi beaucoup plus de tension nerveuse de se dire bah avant, ils devaient être présents sur 2 semaines que dans les grands chelems. Là, quasiment 7 fois sur 9 dans les Masters 1000, il devait être présent une quinzaine. Et franchement, c'est du temps qui est loin ben, de leur famille, etc. Donc, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Ils lâchent beaucoup d'influx nerveux. Et c'est pourquoi ben, il y a beaucoup plus de blessures. Et ça, c'est ce qu'on voit pas forcément. Mais c'est également le cas pour les joueurs. Ouais, ben, 100, finale 100% chienne,
Ouais, c'est
ça
ça.
serait ouf. Ou même le Tabilo Hurkacz en finale, ça serait
Faut
assez rigolo.
savoir que Tabilo, c'est le premier Chilien à arriver en 2000 Masters 1000 depuis Fernando González. Si je dis pas de bêtises, c'est 2009, j'ai vu la stat. Donc en avoir deux
Ouais,
en demi, ça serait déjà incroyable. Alors les deux en finale, ouais, ça serait juste improbable. Parce qu'il y en a, ouais, de performants, il n'y en a que trois, quoi. Il y a Garine aussi, mais ouais, en avoir deux, ça serait fou.
c'est clair que pour eux, c'est voilà, c'est une nation voilà, sur Terre qui performe bien et ça fait plaisir de les voir confirmer. On va tout de suite passer à l'affiche suivante qui aura lieu ce soir. Zverev contre Fritz, où l'Allemand mène 4 à 3, donc un match-up pas évident. Avec un Fritz qui arrive à tenir la diagonale revers, qui sert aussi très très bien, qui peut se montrer un petit peu plus agressif et moins passif que son adversaire. On a Zverev qui donc a sorti Vukic, Darveri et Borges, qui a eu des matchs. Voilà, à chaque fois il passe en 2-7, mais on peut pas dire qu'il a non plus impressionné. Et je sais que bah, avant le début du tournoi, je disais bah, Monte Carlo a relancé Tsitsipas, Madrid a relancé Rublev et pour moi Rome devait relancer Zverev. Donc c'est vrai qu'il peut tirer son épingle du jeu, mais on a un Taylor Fritz quand même qui est ultra régulier, ultra impressionnant. Il a su enchaîner ben, Munich, Madrid, où il perd contre Rublev, donc le futur lauréat. Et ensuite là, il se fait Fonini devant son public, qui est jamais facile en 2-7. Korda également 2-7. Et Dimitrov en
Quel
3.
match!
Enfin, ça a été un match, voilà, Dimitrov qui a été ultra friable mentalement. Enfin voilà,
Incroyable.
il y a eu des rebondissements
C'est
de
fou.
fou. Mais honnêtement, c'est très très solide, Fritz. On sait, c'est souvent en grand chelem qui coince. Comment est-ce que tu vois cette affiche? Est-ce que tu penses que l'Américain peut prendre le dessus sur l'Allemand ou au contraire, ben, Zverev va continuer sa petite montée en puissance?
Bah, c'est un match que j'arrive pas trop à jauger, parce que comme ça, logiquement, je te dirais quand même Zverev qui a plus de garanties sur la surface. Puis qui doit enfin montrer quelque chose sur sa tournée sur terre battue. Là, c'est vraiment l'occasion pour lui d'aller en finale. Il joue Fritz puis Tabilo. Donc, enfin, pour moi, le minimum, c'est d'aller en finale. Donc, j'aurais envie de te dire, ouais, Zverev. Le truc, c'est que bah, Fritz joue vraiment bien. J'ai vraiment trouvé très, très bon contre Dimitrov. Il y a eu du très bon Dimitrov dans le deuxième set, du mauvais Dimitrov dans le premier, dans le troisième. C'était régulier. Mais lui a su quand même rester assez régulier. Je trouve qu'il a vraiment progressé sur terre dans le combat, en fait. Maintenant, il accepte de défendre, il accepte l'échange, il ne se précipite pas. Côté revers, c'est très solide, on le sait, c'est un des meilleurs revers du circuit. Donc, franchement, moi, j'ai trouvé très très bon Fritz, toujours un bon service. Si on accepte ce trou de deuxième set un peu fou contre Dimitrov, souvent, c'est très dur de se procurer des balles de break contre lui. Et quand il y a des balles de break, il est très solide, un peu à l'image de ce qu'il avait fait contre
Ah bah
Djokovic à
ouais.
l'Open d'Australie. On
11
se souvient,
sur
ouais,
11
l'Open
de balles de
d'Australie.
break
Ouais,
sauvées.
c'est ça. Mais là, hier aussi, hein, hier aussi, il se fait. Je me demande s'il se fait
C'est
breaker.
11. C'est 11 sur 11 qui le
11 sur
lance
11
contre
aussi, ouais.
Dimitrov.
Mais contre Djokovic, c'était un truc du genre, c'est genre 13, au bout de la 14e, je sais plus. Mais ouais, il avait mis du temps, Djokovic, à breaker aussi.
La
Donc,
stat, tac, qui l'en sauve.
ouais, franchement,
17 sur 21, il l'en sauve.
17 sur
Contre
21, ouais.
Djokovic.
Donc, ça, ouais, c'est. Franchement, il est clutch. Il fait un peu penser à Berrettini des fois. Pas exactement dans le style de jeu, mais quand même dans le côté clutch sur les moments importants. Et je pense que ça sera tendu. Je suis mal à donner un favori, je dirais. Il y aura du tie-break, je pense. Au moins un, voire deux. je vais quand même dire Zverev en 3-7 parce que je ne peux pas croire quand même que Zverev, il n'arrive pas à profiter de ce tableau-là pour aller faire un gros tournoi avant Roland et se mettre dans un bon état psychologique et tennistique, quoi. Je me dis, c'est l'occasion rêvée. Après, je n'ai pas regardé beaucoup Zverev, mais du peu que j'ai vu, ça n'avait pas l'air incroyable contre Borges. Même dans le premier set, il met 6-2, mais franchement, c'était pas fameux. Il galère dans le deuxième, je sais pas. J'ai l'impression que ouais, il est moyen, quoi. Il se contente un peu de rester sur ses acquis. J'ai l'impression qu'il a du mal à aller vers l'avant. Après, à voir si avec l'enchaînement des matchs, la confiance, ça revient. Et à ce moment-là, il sera très dangereux à Roland. Mais ouais, c'est un match intéressant, surtout pour Zverev, j'ai envie de dire, parce qu'on attend ça.
C'est vraiment poussif de la part de l'Allemand. On attend quand même du mieux par rapport à ce qu'il a fait à l'Open d'Australie, où c'était un niveau très élevé. Bon, après, il y a cette déconvenue contre Medvedev, et depuis, c'est extrêmement laborieux. Il est retourné dans des schémas de jeu très passifs, notamment coup droit, où bah, il y a beaucoup de cadeaux. On l'a vu contre Nuno Borges. Ouais, 6-2, donc il break d'entrée, il se fait débreaker. C'est pas évident pour lui, et pourtant, il a vraiment une bonne rampe de lancement dans ce tournoi, vu de son tableau, sachant que Fritz a battu des joueurs beaucoup plus talentueux, entre guillemets, et beaucoup plus compliqués à gérer que Zverev. Donc, ça peut être un match très compliqué. Je pense une victoire de l'Allemand en 3-7, mais il peut tout se passer. Donc, on attend vraiment de l'Allemand qui hausse le curseur. Forcément, il y aura des tie-breaks, tu l'as dit, Rob, de joueurs qui servent très, très bien. Même voilà, Fritz qui a plus verrouillé ses jeux de service que Zverev dans ce tournoi.
J'ai confiance en Fritz, ouais, sur les jeux de service, je pense.
Je regarde contre Korda, il n'a pas eu à sauver la moindre balle de break. Et contre Fonini, ouais, en gros, il ne s'est pas fait breaker du tout. De 13 sur 13, Fritz, 2 sauvés contre Fonini, 11 contre Dimitrov, 0 contre Korda. C'est extrêmement, extrêmement solide.
Ouais, c'est très, très solide.
Ouais. Taylor Fritz. Et surtout son enchaînement, encore une fois, Munich, Madrid. Et maintenant Rome, après avoir dans les grands rendez-vous qui coincent, mais c'est extrêmement positif pour l'Américain qui voilà, aime bien avoir ses balles à hauteur de hanche côté revers, où c'est là qu'il est le meilleur pour trouver de la constance, qu'il attaque un peu plus longue ligne. Il sert très bien. Donc j'irai quand même sur l'Allemand, mais attention à ce match, d'autant plus que les face-à-face sont serrés. Ce sera la première rencontre sur terre battue, donc ça va être à surveiller. Ça va donner quelques indications pour la suite. Un autre match qui peut être intéressant, c'est Jarry contre Tsitsipas, donc le Chilien qui mène 3-2, sachant que bon, on sait qu'il a les armes pour embêter Stefanos Tsitsipas. Si on reprend donc Jarry qui a eu un match en 2-7 contre notre Français qui a fait une sacrée perf de sortir Rublev, ça a été extrêmement positif.
Je reprends, il a failli perdre avant, par contre, contre Napolitano en 3-7, il n'est pas passé loin.
Un match de rameur où Napolitano, il a fallu attendre une heure et demie, je crois.
Un set et demi pour faire un coup gagnant. Et
Tsitsipas qui, lui, il a son premier match compliqué contre Struff. J'avais des doutes sur Tsitsipas par rapport au fait qu'il avait rompu avec Badoza, à quel point ça allait l'impacter, Struff, qui est quand même
un positif, en fait.
Lui poser problème. Et après, il a roulé sur Nori, sur Demi-Nord, et il est peut-être le favori de ce tournoi, même si Jarry mène dans les face-à-face, et on sait qu'il peut s'appuyer sur son service, son coup droit, sur le revers de Tsitsipas. Mais je pense que le grec peut trouver la clé. Qu'est-ce que tu en penses?
Moi, je suis assez confiant pour Tsitsipas sur ce match-là. Bon, c'est pas le même match-up que contre Demi-Nord. Ça sera quand même un peu plus dur, parce que Jarry, on sait que sur terre, il a un gros service, il a un gros coup droit, il fait quand même mal, il maîtrise bien la surface, contrairement à ce qu'on pourrait penser de son style de jeu. Donc pas simple. Maintenant, je trouve que Tsitsipas est vraiment impressionnant sur ce tournoi, que ce soit contre Nori, contre Demi-Nord, contre Struff. Franchement, je pense que l'ancien Tsitsipas, entre guillemets, il y a quelques mois, aurait perdu contre Struff au premier tour. Et on sent qu'il est quand même plus dans le combat. Alors, il y a encore quelques petits bas, mais même côté revers, je trouve que c'est vraiment solide. Je ne sais pas si vous avez vu hier contre Demi-Nord, à un moment donné, il fait un super point que avec son revers quasiment, il en sort un longue ligne pour conclure le point. Franchement, c'est assez solide, Tsitsipas. J'en fais un des favoris, un des joueurs en lequel j'ai plus confiance à Roland-Garros, je pense, à l'heure actuelle. Après, bien sûr, si Djokovic et Alcaraz sont vraiment très très bons lors des premiers matchs, on les mettra rapidement dans les favoris. Mais en l'absence de garantie, je dirais que c'est un des joueurs qui part avec le plus d'avance sur ce Roland-Garros, le plus de confiance. Et moi, je l'aurais bien confirmé dans des conditions de jeu qui lui conviennent bien ici à Rome. Moi, je vois bien 2-7. Je pense même pas que ce sera si accroché que ça. Je dirais 6-4, 6-4 ou 6-4, 6-3. Je sais pas, j'ai assez confiance en Tsitsipas là sur ce tournoi. Je le trouve assez solide. Il y a peut-être un piège en demi-finale plutôt, mais là, quand j'arrive, je me fais pas de soucis.
Ouais, c'est fou comme le tennis, c'est un sport qui va vite. On n'aurait pas eu la même discussion la semaine juste avant Monte-Carlo, où bah là, on est presque en train de dire que c'est le
Ouais,
favori,
c'est
le gars
ça.
qui offre le plus de garanties à Roland.
Alors
Il y a quelques
qu'avant, on
semaines,
aurait dit
on
non, c'est
était
bon.
très très loin. Et ouais, c'est ça, ce serait un avant-goût de Roland-Garros. Je suis comme toi, j'ai assez confiance en Tsitsipas, qui a une science du jeu tactique sur terre battue quand même, qui est assez impressionnante, où il arrive bien à camoufler ses lacunes en revers, où il a beaucoup plus de temps, il a ce revers très bombé qui lui permet derrière de repousser ses adversaires, de tourner ensuite et d'attaquer avec son coup droit. Il sert très bien, il se déplace merveilleusement bien sur cette surface. On l'a vu, ben, ce revers long de ligne parfait contre Alex de Minaur, où il n'a pas du tout existé l'Australien. Après, le plus dur pour lui, c'était vraiment, je trouve, là, je pense qu'il est vraiment lancé dans ce tournoi. Une victoire en 2-7, pour moi, avec un set accroché, un petit 7-5 ou 7-6, et l'autre un 6-3, 6-2, sachant qu'il va, je pense, écœurer un petit peu Jarry, qui est quand même pas le joueur qui se déplace le mieux par rapport à sa grande carcasse. Certes, il sert très bien, très bon côté coup droit, où il peut agresser Steph sur son côté revers, mais lui, qui va lui mettre un peu plus de volume sur le côté revers de Jarry, où il a tendance un peu aussi à exploser. Et ça n'a pas été si simple que ça contre Muller. Très belle mention d'ailleurs pour lui, qui a fait un super tournoi, notre Français. C'était pas attendu. Donc on va plutôt aller sur Tsitsipas, qui nous offre de belles garanties avant le Grand Chelem Porte d'Auteuil. Et la dernière affiche, Paul contre Hurkacz et Salut Gigi qui nous rejoint. Donc Paul contre Hurkacz, Paul qui revient, sachant qu'il avait eu cette blessure à Miami. Ensuite, il a repris un petit peu des sensations avec une défaite contre Chirondolo. Et là, il est très solide, hein. Karatsev, Kopfer, Medvedev et Hurkacz qui a sorti Rafael Nadal dans un match XXL, qui ensuite a confirmé contre Etchevri, qui a eu un match très poussif contre Baez. Quand même, ça a été un match assez poussif où il arrivait bien à retourner le service de son adversaire. Il n'a pas su forcément profiter des lacunes au service de Baez. Donc, ça a été un match extrêmement accroché. Comment est-ce que tu vois cette affiche? Qu'est-ce que tu en penses? Où là, vraiment, on a une opposition de style de jeu.
Ouais, c'est un match qui peut être vraiment très sympa à suivre, contrairement à ce qu'on peut penser. Bien sûr, on peut être déçu de ne pas avoir un Nadal-Medvedev, mais ça va être sympa à suivre, je pense, parce que Paul, c'est un joueur qui sait très bien jouer sur toutes les surfaces, qui est agréable à regarder. Il sait
Pas
très bien
d'accord avec toi,
mettre
Envahi,
l'affaire.
d'ailleurs, deux spécialistes de dur. Pour moi, Paul a fait ses premiers faits d'armes Roland Garros Junior, notamment sur terre battue. C'est peut-être l'Américain qui joue le mieux sur terre, de par ses compétences athlétiques
Ouais, non,
et ce qu'il propose sur.
il sait tout faire, il sait défendre, il sait slicer, il sait monter, il sait tenir l'échange, il sait faire pas mal de choses sur un terrain, c'est toujours agréable à regarder. En face, on a Hurkacz qui est en feu complet, qui a laminé évidemment Nadal, c'est ça qui a fait surtout parler, mais ensuite il a quand même confirmé contre deux terriens, Etcheverry et Baez, ce qui prouve quand même que alors le mettre dans les favoris à Roland, non. Par contre, le mettre parmi les coupeurs de tête et parmi les 10, 12 prétendants, why not? Franchement, ça sera un outsider parce que il prouve sur son doigt quand même que sur Terre, il n'est pas non plus cata. Il avait d'ailleurs gagné un tournoi historique en début de tournée. Donc, franchement, il sert très bien, celui des deux côtés. En plus, il se met à faire des points un peu hot shot. Il a une bonne main. Franchement, ouais, Urquell, je le trouve très complet. Je pense que ça sera un match tendu. Je vois bien 3-7, mais je pense que le Polonais aura encore le dernier mot parce que j'ai l'impression que c'est un peu sa semaine. Et franchement, il est en feu et je serais curieux de voir ce que ça pourrait donner contre un Tsitsipas dans le dernier carré en tout cas.
Alors moi, je ne vais pas te rejoindre et je vais voir une victoire de Tommy Paul
Alors, une
sur
différence au
Hurkacz.
moins.
Au moins une différence, voilà, par rapport. C'est un joueur qui relance bien, qui peut priver de temps aussi ses adversaires, qui va bien tenir la diagonale revers de Hurkacz, qui est un joueur aussi qui a des compétences athlétiques, qui va peut-être pouvoir exploiter les défaillances de son adversaire à se déplacer, même si on a vu qu'il se déplaçait plutôt très bien contre Rafael Nadal. Donc je vais plutôt aller sur Paul aussi pour exploiter un peu les lacunes côté coup droit de Hurkacz par rapport à son intelligence de jeu. Je vais aller sur l'Américain qui retrouve une seconde vie après cette désillusion à Miami qui a été compliquée pour lui. D'autant plus qu'il a eu un très bon entraînement contre Medvedev, même si c'était que Medvedev un petit peu fatigué.
Ouais,
Mais
c'était long pour le.
En termes de style de jeu, ça reste quand même assez similaire. Et je pense que ça peut être un match assez intéressant qui va être à scruter avec une belle opposition de style. Donc c'est notre première différence. Donc Rob, fais-nous un petit peu la fin de ce tournoi de Rome chez les messieurs. Donc tu as dit Tabilo Zverev et Tsitsipas
Et
Hurkacz.
Tsitsipas, Hurkacz.
Raconte-nous la fin de tournoi que tu vois.
Déjà, je vais aller sur une petite folie. Moi, je pense que Tabilo le fait. Je pense qu'il va en finale. Je sais pas, je me dis, Zverev, je trouve un peu limite. Je me dis, contre un joueur vraiment en confiance, pur terrien, qui peut vraiment exploiter ses failles, je me dis, ça peut être le faire, un peu le one shot, je sais pas, la Cameron Norrie ou quoi, sur un Masters 1000 comme ça. Le joueur qui met tout dedans et qui est en feu, et je trouve vraiment en confiance. Ça me semble pas si saugrenu, sûrement 3-7. Après, si c'est Zverev qui va en finale, ça me choque pas du tout, mais j'ai envie de tenter le petit coup Tabilo, pourquoi pas. Donc Tabilo en finale, et de l'autre côté, Tsitsipas-Urkhaghj, je pense pas que ça sera une balade pour Tsitsipas, mais je pense qu'il devrait quand même s'en sortir, de par ses acquis sur la surface, sa confiance. Je pense que s'il arrive en demi, il sera vraiment en forme. Et Urkhaghj, je pourrais coincer un petit peu peut-être contre un adversaire d'un cran supérieur qui a prouvé de belles choses sur Terre. Donc ce sera pas un match évident. Peut-être 3-7 aussi, peut-être 2-7 très accrochés, mais je pense que Tsitsipas s'en sortirait. Donc ça donnerait une finale entre deux purs terriens, entre Tabilo et Tsitsipas. Et je pense quand même que ça irait pour Tsitsipas. J'ai peur un peu de la pression de l'événement. J'ai peur d'une finale un peu décevante, à vrai dire. Malheureusement, on n'a pas des belles finales cette année en Masters 1000. C'est un peu le problème qu'on a. Franchement, il y a eu le premier set d'Alcaraz, Medvedev à Indian Wells, mais sinon, c'est souvent très compliqué. Et je pense que Tsitsipas gagnera en 2-7, solidement, avec des breaks, sûrement ouais, 6-4, 6-3, un truc comme ça. Donc je vois Tsitsipas faire le doublé Monte Carlo Rome et faire le plein de confiance. Ce serait assez dingue quand on sait où il en était il y a encore un mois et demi, ouais. Je vois bien ouais, Tsitsipas Tabilo et Tsitsipas s'imposer, en tout cas.
C'est vrai qu'en veille, la finale à Zverev, ce qui se passe paraît trop prévisible. Il risque d'y avoir des grosses
Ouais,
surprises.
soit Fritz, soit Tabilo, je pense. Tsitsipas, j'ai confiance, mais Fritz ou Tabilo, je me dis ouais,
Je suis
mieux.
comme toi. Je suis comme toi. Donc moi, je vois Tabilo, Zverev et Tsitsipas, Paul. Donc déjà, que Zverev passe Fritz, il n'y a rien de fait.
C'est
Donc
ça.
je vois un match accroché entre Zverev et Tabilo, avec des hauts, des bas. De la pression. J'ai China quand même qui choisit sa première demi-finale en Masters 1000, c'est pas rien. Zverev a l'expérience qui s'impose en 3-7 pour aller jouer une nouvelle finale à Rome. Et de l'autre côté, Tsitsipas Paul, je pense que Tsitsipas devrait facilement s'imposer en 2-7 ou un 6-4-6-4 contre Tommy Paul pour jouer une autre finale en Masters 1000 cette saison pour avoir le remake de ce match qu'on a eu à Monte Carlo, Tsitsipas contre Zverev, où à l'époque on se disait peut-être que Zverev était favori dans ce match. Même
Ouais.
si ça a été très compliqué pour lui. Et là, je vois l'inverse, un Tsitsipas qui, pour moi, j'en fais vraiment mon favori, s'impose contre Zverev. Et potentiellement, ce dimanche, dans notre vidéo, on se demande si Tsitsipas n'est pas le favori
C'est ça.
pour Roland-Garros. C'est un petit peu comment je vois cette fin de tournoi. Il y aura des surprises. Comme toi, je la vois plus du côté Tabilo ou Fritz.
Une histoire de
Après,
match-up
à
aussi,
voir.
hein. Parce que Tsitsipas a vraiment le match-up contre Zverev, donc si ça arrive, en fait. J'ai du mal à voir ce tournoi échapper à ce qui se passe. Après, ça peut arriver. Pour moi, le seul qui peut vraiment le faire tomber, c'est Urkhaghj. Urkhaghj qui sert
Ouais,
le
Urkhaghj
plomb
qui sert le
et
plomb,
tout le
ouais,
temps.
plein vert, ça
Pour moi,
serait,
c'est plus ou moins la seule
c'est
option.
ça.
Je suis assez confiant. Je ne vois pas d'adversaire vraiment qui peut être confiant contre ce qui se passe. Donc, j'ai du mal à pas voir le grec le prendre ce Masters 1000.
Cas, voilà pour notre tournoi chez les Nations. On va se tourner tranquillement chez les dames, mais avant, un mot du sponsor de cette vidéo et qui nous accompagne jusqu'à Roland-Garros, TheBet. C'est un site de paris sportifs, donc c'est une activité responsable. Il faut être majeur pour parier et surtout n'investis pas de l'argent que tu n'as pas, ça sert à rien. D'où le fait que ça soit une activité responsable. Avec notre code, je vais remettre ici dans le chat. Hop là, peux t'inscrire. Hop là, est-ce que je l'ai? Hop là, que je vais remettre ici. Comme ça, vous l'aurez. Donc, du coup, c'est soit vous passez par notre lien ou vous tapez lors de votre inscription le code GST et ça vous donne accès à un bonus de bienvenue qui fait que votre premier pari, qu'il soit gagnant ou perdant, est remboursé à hauteur de 100 euros en free bet. Donc, si vous voulez vous faire plaisir sur la fin de Rome et après pour Roland-Garros, c'est le moment ou jamais. Voilà. Donc, c'est un grand merci à TheBet de nous accompagner. Et si vous voulez parier, si vous n'êtes pas encore inscrit sur la plateforme, franchement, allez-y parce qu'il y a, il y a des belles surprises et je pense qu'il y a des belles cotes aussi pour la suite et notamment avec les premiers tours de Roland-Garros. Enfin, ça va être une bénédiction au niveau mental pour Zverev et Stefanos, au contraire.
Bah après, ouais, peut-être de la pression pour Zverev parce qu'il n'a pas, il a pas trop de confiance en ce moment. Ça peut être le tracasser de se dire je suis vraiment favori. Si c'est pas, je suis plus confiant. Je pense qu'il a vraiment de la confiance depuis ses quelques derniers matchs. Donc je le vois bien aborder cette fin de tournoi. Moi, je pense pas que. Déjà, Monte-Carlo, en fait, pour moi, il était déjà, à partir du moment où il arrive en. C'était en demi qu'il joue au Sinner. Ouais, en finale, il était favori et pour moi, il a quand même assumé son rang. Donc je n'ai pas trop d'inquiétude sur Tsitsipas par contre.
On est assez confiant. On va peut-être être douché demain. On va voir ce que ça donne.
Oui, bah, ça va être Fritz, ça va être Fritz, Jarry et Paul Wurkacz, quoi. Voilà.
On sera là en tout cas pour commenter tout ça. On va se projeter un petit peu chez les dames. Donc Swiatek qui s'est imposé contre Madison Keys, 6-1-6-3. Keys qui revient bien quand même après son run à Madrid, là, ouais. Le run à Rome, alors que ça a été compliqué ce début de saison. Et Goff qui revient enfin. Contre Zeng 7-6, 6-1, donc Swiatek qui a enchaîné après son sacre contre Sabalenka à Madrid avec voilà, il y a, ça a été en 2-7 mais ça n'a pas été si facile que ça contre Putintseva qui mène 4-1 dans le deuxième et après
Kerber, elle a un break Kerber. Aussi ouais.
Kerber, elle a un break contre Keys, il me semble que ça se passe
Keys, non, c'était hyper facile et il s'est rien passé.
Tout l'inverse de Goff. Qui, on voit son manque de confiance contre Christian, contre Badoza, qui a fait un sacré match aussi. Et contre,
regardez contre Badoza, c'était dur à regarder. Hein. Honnêtement, c'était compliqué. C'était.
Qui peine au niveau de sa confiance et qui commence voilà, les attentes qu'elle a sur ses épaules, ce qu'elle a fait à l'US, etc. Donc comment est-ce que tu vois cette affiche entre les deux joueuses? Une balade encore pour Swiatek.
Bah malheureusement oui, j'ai pas vous vendre du rêve, mais j'ai peur que ce choc entre guillemets fasse fab shit, parce que Swiatek mène 9-1, alors je sais pas s'il y a une histoire d'exhibition peut-être j'ai pas en tête, mais je sais que oui. Au total c'est 9-1, peut-être 8-1 ou 7-1 sans les exhibes, parce que je sais que Goff là-bas vraiment c'était à Cincinnati l'an dernier, ça par contre c'est une vraie victoire, mais honnêtement sur terre je vois pas dans quel monde Goff bat Swiatek. C'est mieux dans le combat, c'est mieux surtout cette semaine. Maintenant dans le jeu, j'ai encore beaucoup de mal Goff. Il y a encore beaucoup trop de double faute, beaucoup trop de moments où on ne sait pas ce qu'elle fait, trop d'imprécisions, notamment à la volée pour conclure. J'ai regardé contre Badoza, franchement, je disais que c'était compliqué parce que elle a de la chance, c'était pas une grande Badoza en face. Il y a beaucoup de break des breaks, beaucoup de points un peu bizarres, beaucoup de fautes. Malheureusement, c'était pas un grand match, même si ça durait assez longtemps, que ça fait 3 sets, c'était pas un grand match. Et du coup c'est ce qui me fait dire que ouais, je crois pas trop en Goff là-dessus. Pour moi elle a un service bien moins solide que Swiatek, elle échange pour moi elle est moins solide, franchement faudrait une Goff vraiment du niveau de la fin de saison dernière, une Goff incroyable pour ne serait-ce qu'espérer faire quelque chose contre Swiatek, et je pense pas que ce soit le cas et j'ai peur, ouais, j'ai peur d'un 6-2-6-1 quoi, 6-4-6-1, mais j'ai peur qu'on ait un set à un moment qui parte complètement, qui soit hyper facile pour Swiatek parce que bah elle faiblit pas. Alors oui, il y a un break contre Putintseva de retard, il y a un break contre Kerber, mais mentalement c'est tellement solide, elle a une telle marche que même quand elle a un break de retard, elle panique pas, elle revient. Donc j'ai du mal à pas l'avoir en finale encore une fois.
On rejoint totalement et non, on va pas couvrir le Zverev Fritz. Logiquement la finale dimanche, donc on aura l'occasion d'en reparler oui. D'ici là. Je suis totalement en phase avec toi. Swiatek, pour la gêner, il faut vraiment une joueuse qui lui rentre dans l'art. On l'a vu, Rybakina, Sabalenka, très agressive, qui lui prive de temps, notamment sur son côté coup droit, où elle peut commettre des fautes quand on la prive de temps. Goff, qui a plutôt un profil de joueuse défensive, qui a du mal en plus avec son coup droit, qui doit jouer à contre-nature ou faire un match de folie comme l'an dernier, elle l'a fait contre Swiatek. Là, encore plus sur terre battue, sur une surface lente. C'est extrêmement compliqué. Donc, même si Swiatek laisse un petit peu plus de déchets, et au final, à chaque fois, elle s'impose quand même en 2-7, hein, même si voilà, il y a un break de retard par-ci, par-là, je vois une victoire peut-être pas écrasante, parce que là, Swiatek n'écrase pas ses adversaires, mais peut-être un ouais, 6-4-6-4 ou 6-4-6-3, quelque chose d'assez conforme, conventionnel. Et Swiatek qui joue une nouvelle finale au Master Swim, sur terre battue, après son énorme. Coup qu'elle a fait à Madrid et cette énorme finale. Donc, on a hâte. Salut Steph. Et l'autre partie qui s'annonce peut-être un petit peu plus indécise, Donc on a Collins qui mène, là il y a un gros jeu qui mène un set et 4-2
Ouais, elle
dans
va
le
gagner,
deuxième
je
set
pense, sauf miracle.
contre Azarenka. Et de l'autre côté, bah, on a Sabalenka qui est venue donc à bout d'Ostapenko et qui a eu un énorme combat contre Svitolina.
Un match
Également,
fou,
ça a
ouais.
été compliqué son premier tour. Donc là, pour moi, en tout cas, c'est un match où Christy Collins, on se rappelle de leur match il y a quelques jours, qui avait fait 3-7, où Collins a le break, si je dis pas de bêtises, dans le troisième set, où j'ai plus
Non, elle a pas de break.
la.
Je te dis pas de bêtises. Elle a balle de break dans le deuxième. Elle le fait pas et après elle se fait renverser. Il y a pas de break dans le... Il y a pas de balle de break dans le troisième. Il y a pas de break, je crois pas. C'est dans le deuxième où
C'est
elle
tac, tac,
a
tac. Oui, non, oui, c'est ça, c'est ça, c'est le
la balle
deuxième,
de
donc
break. Elle la fait
ça a
pas
été,
et
ouais, ça a été.
après.
Ça a été, c'est ça. Exact, exact, exact. Donc pour moi, ça peut être un match assez intéressant. Est-ce que tu vois Sabalenka rallier inévitablement cette finale contre Swiatek, ou est-ce que tu penses que Collins va créer la surprise?
Non, je vois pas de surprise encore. Je pense que le match-up est quand même plutôt à l'avantage de Sabalenka quand c'est une cogneuse en face. Elle a tellement de puissance que pour moi, elle remporte plus ou moins toujours le duel. Après, ça dépend du déchet qu'elle aura dans ses frappes, est-ce qu'il y aura un peu de faute, un peu de tension, mais je pense quand même qu'elle est un poil au-dessus de Collins, qui fait quand même une très grosse saison. Collins, si elle gagne là, c'est quand même sa 32e victoire cette saison pour une joueuse qui, au plus haut, je crois qu'elle fait 37 victoires en carrière sur une même saison, donc. Faut se dire qu'on est au mois de mai, qu'elle fait encore 5 victoires, elle a déjà battu son record. C'est quand même assez incroyable. Mais non, je suis assez confiant pour Sabalenka là-dessus. Je pense qu'elle tiendra son rang et du coup qu'on aurait un remake de la finale de Rome contre Świątek. D'ailleurs, ouais, le match contre Svitolina était juste incroyable. Svitolina qui passe vraiment à deux doigts de faire un immense coup. Elle est menée d'un break. Il y a Sabalenka qui sert pour le match à 5-3 ou 5-4. J'ai un doute, c'est 5-4. C'est 5-4 et il y a deux balles de match. Non, pardon, d'abord elle débreak, des breaks
Ouais,
blancs.
ça
Très très mauvais
débreak.
jeu
Après, il y a deux balles
de.
de match.
C'est ça, très très mauvais jeu de
Et.
Sabalenka qui perd tout, 5-5. Elle remporte son jeu de service 6-5. Elle a deux balles de match à 6-5 qu'elle fait pas. Et après, on a eu un tie-break qui est juste monumental. Les deux joueuses qui lâchaient rien, qui s'envoyaient des merguez, comme on dit. C'était assez impressionnant à voir. Et ouais, un peu peiné pour Svitolina sur ce match-là, qui méritait sûrement un poil mieux. Mais non, Sabalenka très solide, même dans l'adversité, même quand elle est menée, même quand c'est en 3-7, souvent elle arrive à s'en sortir. Donc, je la vois en finale encore une fois.
Ouais, Steph, Josh couvre Bordeaux cette semaine. Bon, il n'y a pas un superbe temps, mais il y a quelques matchs, voilà, il se régale. Il y a quand même Murray, il y a quand même de gros noms. Et là, potentiellement, Azarenka qui va débreaker Collins. Donc, c'est même pas encore
Il
fait pour
suffisait
Collins.
qu'on dise que pour qu'elle fasse un débrief blanc, évidemment.
C'est ça, c'est ça, c'est ça. Honnêtement, mon cœur balance sur cette affiche par rapport à ce qu'a montré Sabalenka, l'enchaînement, le fait que si elle rejouait Collins. Je me dis qu'il peut se passer des choses. Après, elle n'a pas encore gagné. J'aurais peut-être tendance à mettre Collins en finale contre Swiatek par rapport à voilà, ce remake tant attendu, tant prévisible, et qu'on ait cette petite déconvenue. Même si à la fin, je pense qu'on est assez d'accord, on voit quand même Swiatek s'imposer, peu
En fait,
importe
il n'y a
son
personne,
adversaire.
quoi. Je vois pas qui peut la prendre et on peut même aller plus loin. Est-ce qu'à Roland-Garros, vraiment, on voit une joueuse capable de la battre? Dans un mauvais jour, pourquoi pas? Mais honnêtement, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent, même dans un mauvais jour, espérer. Donc ouais, elle est juste trop forte de base et encore plus sur terre battue. Donc c'est compliqué, ouais, de voir autre chose qu'une victoire de Świątek, ouais. Compliqué.
Donc, en tout cas, on est en phase sur ça. Donc, Azarenka qui a débreaké 4-3 Collins dans le deuxième set. Donc, on est plutôt en phase sur Tsitsipas et Swiatek, sur les lauréats et lauréates
Ouais.
de cette édition de Rome 2024. Comment ça va se passer sur GameStand? Donc, là, il y a deux vidéos que vous pouvez aller voir pour patienter. Donc, une vidéo sur l'histoire un petit peu de Grigor Dimitrov, l'ombre de Federer, on ne l'appelait plus, voilà, Baby Fed, et surtout Holger Rune qui a déçu. Dans ce tournoi de Rome, qui déçoit en général sur cette saison 2024. Voilà, que c'est un peu le vilain du tennis, le méchant parfait, qui va semer la zizanie entre Yannick Sinner et Carlos Alcaraz. Donc, ça a été fait par Josh. Les vidéos sont top. Je vous invite vraiment à aller les voir. Si ce n'est pas fait, comme d'habitude, le pouce bleu, l'abonnement, si vous voulez parier sur The Bet. Et nous, normalement, bah, on va se retrouver pour le live comment
Dimanche.
dimanche. Et avec, pas, quoi qu'il arrive,
je sais plus 15h, 16h, c'est dans l'après-midi. Ah, ouais, ah non, c'est tard, t'as raison.
Tard, non, je sais plus, ouais. Ça m'a une case du Tolina jusqu'à hier.
Bah, bravo, Stéphane, en étant sur Discord c'est... en plus, alors qu'on était en train de suivre le match à minuit. C'est minuit et quelques, c'est fou. Ah là là, c'est une déception, ça.
Mais la finale, ouais, peut-être 17, 18, je sais plus. Je...
Ah, peut-être que c'est peut-être 17. Ouais. C'est pas tout dans l'après-midi, je crois que ça va être 17 ou 18, ouais. De toute façon, on sera là.
Ouais. On sera là. Derrière, c'est férié. Grand week-end, petite semaine. Ça c'est top. Ça, c'est agréable. Et ensuite, on va se lancer sur Roland avec des grosses, grosses vidéos qui vous attendent. Donc, si ce n'est pas fait, claquez votre meilleur abonnement à notre chaîne YouTube. Là, on pousse 12 300 abonnés. On continue notre croissance. Roland va nous réserver des dingueries avec un tournoi très, très ouvert. Et on vous promet voilà, de très très belles surprises. Et voilà, Steph, c'était tard, c'est clair que c'est compliqué de suivre. Déjà que ça rallonge en plus, toutes tes journées sont prises.
Ouais. Ouais, c'était une journée où il y avait plein de longs matchs et ouais, ça finit super tard parce qu'il y avait Medvedev juste avant, je crois. On s'est tapé Medvedev 3h et derrière 2h30, 2h30, Sabalenka. Ouais, c'était chaud, ouais, c'était chaud.
En tout cas, voilà, le tennis, ça se passe sur Game Time Talk. On compte sur vous. On se retrouve dimanche. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.
Salut à tous.